Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle soirée de Biblos. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir avec nous François Fréchette. Bonsoir François.
Bonsoir, Nathanaël.
Il fait un bon moins 20 chez toi?
Non, non, pas tant. Non, c'est doux, c'est moins
C'est
5,
doux?
moins 8, je pense.
Ok, chez nous c'est aussi doux, mais c'est plutôt plus 10 degrés.
Bon.
C'est presque le printemps avant l'heure. Donc, très heureux d'avoir François avec nous. On a la chance et la joie d'avoir une nouvelle fois un Québécois parmi nous. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueille pour ce cours de Biblos. Très heureux de t'avoir, François, puisque tu es évangéliste depuis de nombreuses années, suite à ta conversion. Tu as d'abord travaillé dans la restauration, tu vendais du poulet, et puis après tu as choisi plutôt d'être pêcheur, pêcheur d'hommes, et puis tu es au Québec évangéliste depuis de nombreuses années, et tu participes notamment à une émission qui s'appelle L'heure de la bonne nouvelle, et j'invite vraiment tous nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, je mettrai d'ici quelques temps dans le chat. L'adresse du site internet de l'heure de la bonne nouvelle, une excellente émission qui présente l'évangile ainsi aux Québécois en particulier, mais évidemment qui s'écoute aussi dans toute la francophonie. Donc c'est un plaisir de t'accueillir aussi pour cette soirée consacrée au pardon. Et comme on en a l'habitude, on va commencer ce temps, je te propose, par un temps de prière. Je vais prier, mettre ces instants au Seigneur, te laisser la parole. Et puis, si tu es d'accord, en fin de première session, prendre peut-être l'une ou l'autre question. On fera une pause. Et puis, on recommencera pour la deuxième partie de l'exposé. Puis, à nouveau, peut-être un petit temps de questions. Et ensuite, une conclusion. Est-ce que ça va comme ça pour toi, le programme, François?
Oui, ça va, très très
C'est
bien.
parfait. Je sais que tu n'aimes pas trop parler derrière une caméra. Tu préférais parler devant tout le monde de visu.
Ben,
Maintenant,
c'est sûr que oui, mais je suis habitué de parler à une caméra,
Ah
il y a quelqu'un derrière la caméra.
voilà, là, il n'y a personne. Ou bien, on est tous derrière notre écran et tu ne vois pas trop. Donc, effectivement, donc, c'est une bonne raison aussi pour prier. Et puis remettre ces instants au Seigneur avant de te laisser la parole. Dieu notre Père, c'est une joie pour nous de pouvoir une nouvelle fois consacrer quelques instants pour étudier ta parole. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'elle par celle qui nous régénère, celle qui aussi nous encourage dans notre vie, dans notre marche avec toi. Celle qui nous rappelle tout ce que tu as fait pour nous, celle qui nous rappelle cet immense pardon dont nous sommes les bénéficiaires. Et on veut te prier d'une manière spéciale ce soir pour François, que tu l'accompagnes pour son exposé. Tu vois, parler devant une caméra sans voir les auditeurs, sans voir personne dans la salle, c'est un exercice plus ou moins facile pour l'un ou l'autre. Et on veut le remettre entre tes mains pour que tu l'accompagnes par ton esprit, puis que tu sois aussi avec nous, pour que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que tu veux nous dire ce soir et que ce que nous entendons puisse aussi avoir des effets concrets, visibles dans notre vie. Quand bien même nous serions chrétiens depuis plus de 50 ans, Seigneur, tu parles encore aujourd'hui par ta parole et nous voulons nous mettre ainsi à son écoute. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. Alors, je vais te laisser la parole, cher François.
C'est bon, je vais partager donc mon écran. Bon, ben, écoutez, je veux saluer beaucoup de personnes que je connais, je ne les nommerai pas, mais je connais quand même plusieurs d'entre vous que j'apprécie énormément. Alors, ça ne me fait pas plaisir de pas vous voir, mais je sais que vous êtes là. Alors, c'est génial. Alors, j'aimerais quand même dire d'entrée de jeu que je ne suis pas un théologien classique. Je suis plus un homme de terrain qu'un théologien. Ce que je vais vous présenter, c'est une approche peut-être plus simple que vous avez l'habitude d'entendre par rapport à la théologie du salut. Mais néanmoins, j'espère que Ben, je pense que ça va être plus pratique au fond que théologique, bien que ça sera aussi théologique. Et mon souhait, mon désir, c'est que cette présentation fasse en sorte là, que ça renouvelle votre appréciation du pardon de l'Évangile, puis que ça vous stimule aussi à le propager et que ça vous donne éventuellement même un zèle renouvelé. Alors, le sujet donc qu'on m'a demandé de traiter, c'est le pardon de Dieu. Je vais éventuellement diviser en deux grandes parties. J'ai deux blocs, comme à l'habitude, que vous faites avec Biblos. Donc, le premier bloc, on va voir surtout et réaliser, comprendre qui est Dieu et qui nous sommes. Et puis, dans le deuxième bloc, on va surtout voir quel est ce pardon de Dieu-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et d'ailleurs, je vais vous montrer très brièvement mon plan par rapport à cette soirée. Mais avant, j'aimerais quand même dire que je suis content de traiter de ce sujet-là parce que, un, c'est un sujet que j'ai à cœur, mais deux, c'est que c'est le fondement même de notre foi, de notre pardon, de notre relation avec Dieu. Alors, c'est quand même important. Alors, mon plan pour le bloc 1, la première partie, donc, c'est comprendre le problème, qui est Dieu, qui nous sommes, et comprendre la solution, là, d'abord qu'elle ne vient pas de nous. Je sais que tout le monde sait ça, mais on peut découvrir quand même des subtilités qu'on n'avait peut-être jamais comprises, je ne sais pas, on va voir. Et puis, éventuellement aussi, c'est quoi la solution? Puis, dans le second bloc, la deuxième partie de notre soirée, que faut-il que je fasse? Bien, il y a deux grandes responsabilités, croire et se repentir. On va développer ça un peu. Et aussi, on va voir ensemble une série de choses qui vont changer. Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Bon, le pardon, on va être justifié, on va être régénéré, on va être en sécurité et puis on va être transformé. Alors, allons-y avec la première chose, c'est comprendre le problème. Qui est Dieu? Vous savez, l'Évangile, ça commence avec Dieu. Et puis, il y a une mauvaise nouvelle, une terriblement mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle-là, c'est que Dieu est bon. Moi, non. Alors, on a un problème avec Dieu parce que Dieu est un Dieu saint, est un Dieu juste. Et nous, on n'est ni saint ni juste. Alors justement, Dieu est saint. Pensez à ces séraphins qui adoraient Dieu, qui se cachaient littéralement le visage en criant Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Et puis, eux, qu'est-ce que je trouve impressionnant dans ces séraphins-là, c'est qu'ils n'étaient pas des pécheurs. Moi, devant la sainteté de Dieu, j'écrase littéralement. Mais eux n'étaient pas des créatures qui avaient péché contre Dieu, mais pourtant, ils étaient incapables de résister à ce qui se passait devant eux en voyant la sainteté de Dieu. Et il faut dire, et ça c'est très important, que la sainteté de Dieu ne peut souffrir aucun compromis. Alors, ça fait partie du problème qu'on a parce que Dieu est saint. Mais aussi, on le sait, Dieu est juste. Encore une fois, deux versets, car l'Éternel est juste. Il aime la justice et il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité. Vous savez, Dieu ne peut tolérer le péché sans qu'il reçoive une juste rétribution. Ça, c'est fondamental. J'aime penser à une image toute simple. Au Québec, en tout cas, c'est le cas. Peut-être à certains pays chauds, c'est différent. Mais si au Québec, par exemple, une fenêtre était brisée, peu importe la raison pour laquelle la fenêtre est brisée, on ne peut pas faire un compromis puis dire, je vais mettre un contreplaqué dans la fenêtre, parce que quand il fait moins 20, comme Nathanaël le disait tantôt, bien forcément, ce n'est pas un compromis qui est acceptable. Il faut absolument que la fenêtre soit réparée Et là, le point, c'est que si la fenêtre est réparée, la vraie question ou la seule question qui se pose, c'est pas à savoir si on répare ou non la fenêtre, mais c'est de savoir qui va payer. Alors, l'idée ici, c'est que la justice de Dieu ne peut souffrir elle aussi aucun, mais aucun compromis. Troisième chose à propos de Dieu, c'est que Dieu est amour. On le sait, on le chante très souvent. Puis je vais vous le donner un verset qui est difficile, qui est très rare, là, c'est le verset Jean 3,16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde. C'est surtout ça, le tant aimé. Son amour, l'amour de Dieu a été jusqu'à donner. Et c'est pas, l'amour de Dieu n'est pas un amour théorique. Je pense souvent à l'amour d'un mari envers sa femme. Ça peut arriver des fois qu'une femme dise à son mari, t'as bien beau dire que tu m'aimes, mais j'aimerais que ça se voie concrètement. Et Dieu, lui, son amour, il l'a prouvé envers nous parce qu'il nous a aimés concrètement. Puis je pense beaucoup à ce verset de Romains 5, 8 qui dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Frères et sœurs, c'est un de mes versets préférés parce que encore tantôt, quand je révisais mes notes pour parler, j'ai demandé au Seigneur de me rappeler qui j'étais. Puis il est vite venu à mon cœur toutes sortes de choses que j'ai faites, des choses que j'ai dites avant d'être converti. Et ça m'a encore une fois remué dans mon âme parce que j'en reviens toujours pas comment Dieu m'a aimé malgré tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Puis, on peut composer cette idée-là au présent parce que non seulement il m'a aimé, mais il m'aime encore, même si j'ai trop souvent un cœur partagé. Moi, je pense que devant l'amour de Dieu, devant un tel amour, on devrait tous se tenir prosterné devant ce Dieu d'amour, ce Dieu qui s'est manifesté. Alors, j'aimerais dire quelque chose de vraiment important à propos de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, même s'il est énorme, est insuffisant à lui seul pour nous sauver. Dieu, même s'il nous aime comme il nous aime, il ne peut nous sauver que simplement parce qu'il nous aime. La raison est fort simple, hein? C'est que l'amour de Dieu doit composer avec la sainteté de Dieu qu'on vient de voir. L'amour de Dieu doit composer aussi avec la justice de Dieu. Alors, la sainteté de Dieu exige qu'aucune souillure vienne en sa présence. La justice de Dieu implique que le péché doit être puni. Puis l'amour de Dieu le remplit du désir de nous avoir avec lui. Alors ensemble, son amour, sa justice, sa sainteté le poussent à faire quelque chose pour satisfaire en même temps les trois. Parce que souvent, il y en a qui parlent de l'amour de Dieu et puis là, ils vont dire, l'amour de Dieu, c'est grand comme ça, c'est extraordinaire. Puis ils ont raison. Mais quand on parle de la sainteté de Dieu, quand on parle de la justice de Dieu, souvent on va faire un cercle beaucoup plus petit. Tu sais, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est saint. Mais pour de vrai, c'est Dieu est amour, Dieu est juste et Dieu est saint. Les trois sont pareils l'un l'autre. Il n'y a pas un qui prime sur l'autre. Maintenant, qui sommes-nous? Bien, premièrement, on est des créatures de Dieu avec lesquelles Dieu veut être en relation. On se rappelle que dans le jardin d'Éden, il y avait une relation qui se passait là avec Dieu. Il y avait vraiment, Dieu venait les voir le soir, puis il discutait avec eux, il s'entretenait avec eux. Deuxième chose, on est aussi des créatures qui ont été créées libres, en tout cas au départ. Alors, tout était permis. Tout était disponible dans le jardin d'Éden. Ce n'était que du bon. Il y avait une seule restriction, et cette restriction, on la connaît bien sûr, c'est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais j'aimerais vous faire remarquer que la relation de confiance que l'homme avait avec Dieu tenait qu'à un fruit. Et c'est ça la réalité. La relation qui existait, elle pouvait être brisée seulement en mangeant de ce fruit qui avait été défendu. Bien sûr, on sait que l'histoire ça a mal tourné. On a choisi de briser ce lien de confiance. Il y en a des fois qui me demandent pourquoi Dieu a-t-il mis cet interdit dans le jardin? Tu sais, il y avait quand même un risque, on s'entend. Mais vous savez, c'est pour que on puisse avoir le choix. Moi, je pense que Dieu n'a pas créé, en fait, a créé aucune créature qui n'ait pas le choix de lui obéir, le choix de le servir. Et si, par exemple, un otage était pris dans une maison, dans un appartement, et celui qui a pris l'otage, il dirait, tu peux t'en aller quand tu veux. Mais quand il essaie pour s'en aller, il s'aperçoit que toutes les fenêtres, les portes sont barricadées, il n'y a rien à faire. Alors, est-ce que cet otage-là serait libre de sortir? Ben, c'est bien évident que non. Et ma compréhension, c'est que Dieu nous a créés avec ce choix de l'aimer, de le servir, mais malheureusement, bien sûr, on a fait le mauvais choix. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, bien sûr, nous sommes tous devenus des pécheurs. Je soupçonne que je ne vous apprends pas grand-chose ici ce soir, mais c'est quand même important de mettre toutes les choses en place. Mais la question maintenant, c'est quoi être un pécheur? Et ça, c'est une bonne question parce que on pense des fois qu'on sait bien c'est quoi un pécheur parce que je fais plein de péchés, que je suis méchant, que je suis égoïste, que je suis jaloux, que j'ai des convoitises de toutes sortes qui déplaisent à Dieu. Puis c'est vrai. Mais d'abord et avant tout, pécheur, ça veut dire le mot péché, ça veut dire manquer le but, hein? Et puis, nous, on a manqué le but que Dieu nous avait donné, c'est que Dieu nous avait créés pour être en relation avec lui et pour le glorifier. Il y a un chant peut-être que vous chantez aussi un peu partout là, dans le monde, c'est « Je suis né pour louer, je suis né pour glorifier ton nom. » Mais nous, on a plutôt choisi de vivre à notre façon. On recherche plutôt le désir là, de vivre comme on veut et de faire quand on veut, comme on veut. Il y avait une vieille publicité au Québec qui disait « Moi, je bois mon lait quand ça me plaît. » Pour boire son lait quand ça nous plaît, c'est correct. Mais quand on dit qu'on veut décider, on veut décider tout, ben, c'est ça le péché. Il y a une image que j'ai entendu dire récemment, j'ai appris ça. Imaginez quelqu'un qui construit sa maison et puis qui travaille fort pour le faire. Et puis quand il vient pour venir l'habiter, il y a des squatteurs qui sont venus prendre possession de la maison. Et puis la raison maintenant pour laquelle vous avez construit votre maison, c'était pour l'habiter, mais malheureusement, vous ne pouvez pas le faire. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Dieu nous a créés. Il nous a créés, il nous a créés pour sa gloire, il nous a créés pour qu'on soit en relation avec lui, mais l'objectif que Dieu s'était donné en nous créant n'a pas été atteint. Donc, on n'a pas rempli le but pour lequel on avait été créé. J'ai une autre image aussi que je trouve intéressante, c'est moi, j'ai 4 enfants. Et puis, pourquoi j'ai eu des enfants? Ben, honnêtement, parce que je voulais d'abord donner l'amour que j'avais en moi pour cette idée d'avoir une famille, mais j'ai pas eu des enfants pour qu'à 12 ou 16 ans, qu'ils claquent la porte et puis qu'ils veulent plus me parler pour le restant de ma vie. Puis en plus, qu'ils salissent ma réputation, par exemple. Alors, la raison pourquoi Dieu nous a créés, ben, c'était pour qu'on soit en relation avec lui, mais parce que Dieu est un Dieu saint, un Dieu juste, ben, il ne peut pas être en relation avec n'importe qui si on s'est révolté contre lui, puis on sait que c'est exactement ce qu'on a fait. Pardon, je vais juste boire une petite gorgée d'eau. Maintenant, j'aimerais parler de c'est quoi l'essence du péché, parce qu'encore là, définir le péché est quand même aussi important. Alors, moi, je dirais ceci, c'est que c'est notre façon indépendante de vivre par rapport à Dieu, notre façon indépendante de vivre par rapport à Dieu, c'est-à-dire que moi, Dieu, là, fais tes affaires, moi, je fais mes affaires, je veux faire ma vie, toi, tu fais la tienne, c'est bien correct, on est là, puis chacun, on ne fait pas d'histoire. Mais justement, l'histoire que Jésus nous a racontée à propos du fils prodigue est très riche en instructions, cette histoire qu'on retrouve dans Luc 15. C'est quoi le péché du prodigue? Bien, il y en a qui vont peut-être me dire, ben c'est parce qu'il a gaspillé l'héritage de son père. D'autres pourraient dire que c'était parce qu'il était faire la fête là, un peu fort. D'autres vont dire, ben c'est parce qu'il a fréquenté quand même les prostituées. François, franchement, c'est quand même grave. Et puis je vais vous dire que tout cela est vrai. C'est vrai que c'est mal. Mais le pire ou l'essence de son péché, de cet homme, de cette parabole, c'est d'avoir quitté la maison du Père pour vivre sans lui, indépendamment de lui, mais pas sans profiter de ses biens. Et c'est ça que nous, on a fait avec Dieu. On veut pas de Dieu, mais on veut de ses biens. On profite de cette nature, on profite de la vie, de la santé, de plein de choses que Dieu donne, mais on ne veut pas être redevable au Père, comme dans l'histoire de la parabole. Comme le prodigue, ben on ne veut pas de Dieu, mais on veut juste les bienfaits. Le prophète Ésaïe le dit de la façon suivante, chacun suivait sa propre voie. Où l'apôtre Paul le dit, lui, il dit, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Donc, on veut être indépendant de Dieu, on veut être à notre compte, on veut avoir la prérogative de même décider ce qui est bien et ce qui est mal, alors que ça, c'est la prérogative de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que si on comprend bien quelle est l'essence même du péché, c'est-à-dire de vouloir vivre indépendamment de lui, ça devrait nous aider à comprendre ce que c'est que d'être chrétien. Parce que si on comprend que notre péché, c'est d'être indépendant de lui, puis qu'on veut être pardonné, ben forcément, si on est chrétien, on va vouloir être sous son autorité, être dépendant de lui. Alors, on a vraiment un sérieux problème, et puis la colère de Dieu est sur chacun de ceux et celles qui n'ont pas encore reconnu leur état devant Dieu. Maintenant, comprendre la solution. Excusez-moi, je vais encore prendre une petite gorgée d'eau. J'ai un verset bien connu ici encore. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Vous savez, la loi ne nous aide absolument pas pour être justifié devant Dieu. Au contraire, la loi nous condamne. Encore un verset trop connu, à mon avis, des fois, parce que je me dis, on n'apprécie peut-être pas ce que ça dit vraiment, hein? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, sans l'intervention de Dieu, c'est pas possible de s'en sortir. On est tous d'accord avec ça, mais il y a quelque chose d'inné en chacun d'entre nous qui pense le contraire. On a l'impression que si on fait bien, Dieu va nous aimer davantage. Alors, c'est quoi la solution? Mais j'aimerais quand même dire que la solution, ce n'est pas d'imiter la vie parfaite de Christ. D'ailleurs, j'ai lu récemment une histoire de quelqu'un qui reprochait à un prédicateur de parler de la mort de Christ. Il disait, vous devriez parler de la vie parfaite du Christ en tant que modèle à suivre. Alors, au fond, quelqu'un qui me dirait ça, je lui répondrais, ben vas-y, imite le Christ. Vas-y, fais ce que Christ a fait, comment qu'il a aimé, comment il a pardonné, comment il a bien réagi devant toutes les personnes qui lui faisaient du mal. Alors, on pourrait facilement lui garantir un échec cuisant, n'est-ce pas? D'autres pensent et recommandent d'accomplir les 10 commandements. Je l'ai déjà dit, mais la loi, ça ne nous aide pas. Je me rappelle dans les premiers temps que la technologie dans les voitures avait développé dans le tableau de bord des indicateurs pour souligner ou manifester, révéler certains problèmes techniques, comme par exemple l'usure des freins. Il y a une lumière qui s'allumait, puis je me rappelle une fois, j'étais avec un ami qui avait une voiture comme ça, on recule de 30 ans passés, et puis j'ai dit au gars, j'ai dit, hey, c'est le fun, j'ai dit, toi, il y a plein d'indicateurs comme ça dans ton tableau de bord qui dit les problèmes qu'il y a. Et la femme qui accompagnait le monsieur, elle me dit comme ça, ouais, mais François, ça les règle pas. Et la loi, c'est comme ces lumières dans le tableau de bord, ça souligne le problème, mais ça le règle pas. Et puis, un autre indicateur que je trouve intéressant, qu'il faut pas, c'est, ben, qu'il faut pas, c'est pas comme ça qu'on peut être sauvé, c'est d'appliquer les valeurs du sermon sur la montagne. Il y a un frère qui me dit, écoute, ce discours-là me rachève complètement, c'est-à-dire il me tue parce que je suis incapable de faire toutes ces choses-là. Alors, comment l'homme peut-il être réconcilié avec un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu qui est amour? Ben, on dit souvent que la croix est la solution, puis c'est vrai, mais la croix n'est pas que la plus grande démonstration de l'amour de Dieu. La croix est une manifestation de sa sainteté. La croix est une manifestation de sa justice. Dieu est tellement juste qu'il a été jusqu'à sacrifier son propre fils pour que justice soit faite. Et le texte de Romains 3, 24, 25, on ne le lira pas, là, mais ça manifeste, ça dit, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. La croix est une manifestation de la justice de Dieu, parce que Dieu avait, entre autres, laissé les péchés impunis au temps de sa patience, c'est-à-dire avant la croix. Alors, la façon que Dieu va faire, ou la solution que Dieu nous apporte, c'est ce qu'on appelle le principe de la substitution. Lui, juste pour des injustes, de nous dire l'apôtre Pierre. Ou encore, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, 1 Pierre 2, 24. Alors, si vous lisez Ésaïe au chapitre 53, vous allez voir plus qu'une dizaine de fois l'idée que Jésus a été notre substituant. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a une bonne dizaine de fois où Ésaïe 53 va présenter ça. Maintenant, une question importante, encore là, quels sont les critères pour que le substitut soit un bon substitut? Bien sûr, parce qu'il meurt pour un homme, il doit être un homme, pas un animal. Il doit être sans péché. Il doit être infini parce qu'il doit mourir pour plusieurs, puis il doit verser son sang. Et on sait très bien que Christ est le seul qui remplit ces différents critères. Il est un homme, on pourrait citer plusieurs textes bibliques, il est sans péché, il est infini. Et là, j'aimerais juste m'arrêter une minute parce que le fait que Jésus soit Dieu est fondamental dans le fait qu'il est un substitut qui vaut. Parce que si Jésus serait qu'un homme ordinaire et qui ne serait pas Dieu, il pourrait prendre la place en tant qu'innocent pour une seule personne. Mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est infini, il peut prendre la place de beaucoup de pécheurs, de beaucoup d'hommes et de femmes pour pardonner leurs péchés. Et puis, oui aussi, il a versé son sang et je trouve intéressant le fait que les sacrifices étaient tellement des belles images du sacrifice de Jésus, puis que le sang était versé, mais la crucifixion ne versait pas le sang comme les sacrifices, par exemple, dans l'Ancien Testament, versaient le sang. Mais comme par hasard, il y a eu ce soldat qui a percé son côté et le sang a été effectivement et littéralement donné. Alors, je suis déjà rendu à la conclusion parce que probablement que le deuxième bloc va être un peu plus long. Mais avant d'être pardonné, il faut comprendre le problème. On doit réaliser du plus profond de nos cœurs à quel point, mais à quel point on a offensé ce Dieu juste et saint. Et comment, dans son amour, il est allé jusqu'à sacrifier son propre fils, afin qu'on puisse être pardonné. Il y a trois réactions logiques qui devraient se produire en nous lorsqu'on constate ce que Dieu a fait et comment il a trouvé et élaboré et accompli son plan de salut, son pardon. D'abord, l'adoration. C'est un sujet de reconnaissance pour lequel on ne devrait jamais nous habituer. Et dans les milieux évangéliques, moi je suis, puis la plupart d'entre vous aussi, je pense, on célèbre le repas du Seigneur régulièrement, ce qu'on appelle le culte d'adoration. Et moi, j'aime beaucoup ce culte d'adoration parce que on revient à la base. On revient au moment où Christ a donné sa vie, le pain qui représente son corps brisé, la coupe qui représente son sang versé. Et j'ai souvent fait un lien, moi, avec ce qu'on appelle le repas du Seigneur, avec le mariage. Quand je suis assis là avec ma femme, par exemple, et j'assiste à un mariage, et puis là j'entends les vœux de mariage. Tu sais, je te promets fidélité dans les bons, dans les mauvais jours, dans la santé, dans la maladie, etc. Et puis, souvent, je viens les larmes aux yeux, puis je prends la main de ma femme, puis je trouve ça, tu sais, c'est comme revenir à la base. Et je trouve que le repas du Seigneur, ça me ramène exactement là, à la croix, la base de l'Évangile, la base du sens profond de ma vie. Et on ne peut pas ne pas apprécier puis rester froid devant le prix immense qui a été payé. Et je suis toujours frappé de voir comment l'apôtre Paul, excusez-moi, dans la deuxième épître à Timothée, comment l'apôtre Paul ne semble jamais avoir oublié d'où il est venu. Tu sais, quand il dit j'étais un blasphémateur, et puis il dit mais j'ai été purifié, j'ai été pardonné, puis il dit qu'il est le premier des pécheurs. Puis c'est le fun parce que ce qui est intéressant, c'est que il dit ça à la fin de sa vie. C'est comme si Paul n'avait jamais oublié d'où il était venu. Et je crois que nous, lorsqu'on médite ces vérités évangéliques de base en ce qui concerne le pardon de Dieu, du salut, on devrait avoir exactement la même pensée. Jamais oublier d'où on est venu, le prix qui a été payé. Et finalement, comment nous, on bénéficie de ça aujourd'hui pour notre vie, pour ce qu'on peut faire maintenant. Puis la deuxième réaction que je trouve que ça devrait produire en nous, c'est la consécration. Le prix qui a été payé, puis la grâce qui nous a été faite, devrait nous pousser à renoncer au péché. Et Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, ça dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je trouve intéressant parce que si moi j'avais écrit ce texte-là, j'aurais tendance à dire la sainteté de Dieu nous amène à renoncer au péché. La justice de Dieu nous amène à renoncer au péché. Et c'est vrai, tout à fait vrai. Mais le verset dit, c'est la grâce qui nous enseigne ça. C'est pas la loi, c'est la grâce. C'est-à-dire, comment Dieu nous a fait grâce, ça doit ou devrait nous pousser à marcher pour lui. L'apôtre Paul va dire, vous ne vous êtes, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 6, 19, vous ne vous appartenez plus ou point à vous-même parce que vous avez été racheté. Alors, quand on comprend le prix qui a été payé, quand on comprend la grâce qui nous a été accordée, ben, on a ce désir de marcher pour lui, de se consacrer, de vraiment renoncer au péché pour le servir lui. Et puis, quand je parlais de consécration, j'aurais pu dire aussi, pour ceux qui ne le sont pas, on pourrait parler, c'est la grâce nous enseigne à se convertir, la bonté de Dieu te pousse à la repentance, de dire l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Alors, la grâce de Dieu nous enseigne, donc on devrait ou se consacrer davantage ou carrément se convertir si on n'a pas expérimenté une vraie conversion. Et finalement, le désir de voir l'Évangile se propager. Alors, non seulement nous avons un beau message, mais le monde en a cruellement besoin. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, François, je suis pas un évangéliste. Mais si vous êtes normal comme croyant, vous pouvez pas ne pas vous réjouir lorsque vous entendez quelqu'un qui vient de se convertir au Seigneur, quelqu'un dont la vie a été transformée par la grâce de Dieu. Comment Dieu s'est révélé à lui, comment sa vie a été changée. On ne peut pas ne pas se réjouir de ça et on ne peut pas ne pas avoir ce désir dans nos cœurs. Et même si on ne le fait pas peut-être dans la mesure qu'on pourrait ou qu'on devrait le faire, je ne sais pas, mais qu'on ait au moins cette joie, ce désir de voir l'Évangile progresser, voir prier, soutenir, je ne sais pas, mais il y a tellement de façons de manifester ce désir qu'on a de voir l'Évangile se propager. Alors, maintenant qu'on réalise qui est Dieu et quelle est la solution, alors, que dois-je faire? Ben, c'est ce qu'on va voir dans le deuxième bloc de notre soirée. Merci.
Merci beaucoup François pour cette première partie. Alors je profite de rappeler à nos auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en utilisant le bouton QR, questions et réponses que vous avez en bas de votre écran. Alors comme je suis en attente d'une question, j'en pose une moi-même. On est toujours impacté, enfin ému, je dirais. Quand on reprend tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a fait pour nous sauver, comme tu l'as rappelé au début de cette formation. Mais je me pose la question, quelle est ton expérience quand tu es face à quelqu'un qui n'a aucune culture chrétienne, comme c'est de plus en plus le cas dans nos sociétés, puis je pense encore plus peut-être au Québec que dans nos pays, des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Par quel bout tu commences pour présenter ce salut?
Ouais, c'est une bonne question. Ben, je trouve que moi, je n'ai pas de méthode. Ok, j'ai pas, mettons, peut-être certains connaissent évangélisation explosive où on a une série de questions qu'on pose et puis qu'on amène les gens un peu dans un cul-de-sac par rapport à leur vie. Je suis pas contre les méthodes, mais moi personnellement, j'en utilise pas parce que je pense que je devrais toujours compter sur l'Esprit de Dieu et d'être inspiré au bon moment, un peu comme quand les apôtres, Jésus dit, ben, préparez-vous pas de discours pour votre défense, à l'heure même, je vais vous donner ce qu'il faut. Puis je pense que ça s'applique aussi dans l'évangélisation. Mais une des choses, c'est poser des questions. Parce que Mettons, si j'ai un foulard, un bandeau sur mes yeux, puis là, je tire des flèches, puis j'ai pas, mon bandeau est sur mes yeux, alors je vais tirer un peu n'importe où parce que c'est toutes des vérités que je vais envoyer à droite, à gauche, mais je ne vois pas la cible. Si on pose des questions, est-ce que tu crois en Dieu, tu sais, mettons, c'est à la base. Qu'est-ce que tu penses, t'sais, pourquoi tu vis sur la Terre, t'sais, de faire parler les personnes pour de plus en plus identifier la cible où je dois envoyer mes flèches, les vérités, là. T'sais, par exemple, je pourrais parler pendant 20 minutes à quelqu'un que je n'ai pas écouté et essayer de lui prouver que la Bible est vraie. Puis au bout de 20 minutes, il me dirait, ben oui, je sais, je crois que la Bible est vraie. Bon, ben là, tu as un peu perdu ton temps. T'sais, je veux dire, te lancer des flèches au mauvais endroit. Alors, il faut cibler. Puis, je pense beaucoup à l'apôtre Paul dans Actes 17, lorsqu'il parle à Athènes. Bien, je veux dire, il les laisse parler, il leur pose des questions, tu sais, il les laisse parler. Puis après ça, j'appelle ça, il a son droit de parole. Tu sais, tu laisses parler la personne en lui posant des questions dirigées. Et puis, finalement, la personne, normalement, accepte aussi d'écouter toi, toi, tu crois quoi? Souvent, c'est la personne elle-même qui va ouvrir la porte. Alors, peu importe où les gens sont, il faut juste tenir compte d'où ils sont, mais en posant des questions, on va vite avoir une idée de où ils sont. Puis, tu sais, des fois, les gens ils croient toutes sortes de choses, puis une question qui tue, je trouve, c'est sur quoi tu te bases? Parce que là, tu es en train de mettre toutes tes billes dans un panier, mais tu sais même pas sur quoi tient le panier, tu comprends, tu sais, c'est un peu ça, je trouve. Alors, je sais pas si ça répond à la question, mais elle est pas toute simple, mais je pense qu'elle est juste.
Merci beaucoup. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je propose qu'on fasse une pause. On se
Parfait.
retrouve pour la suite, hein?
Merci.
Merci, à tout à l'heure.